Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Pour les fidèles auditeurs de Canal Académie, la personnalité de Tocqueville est loin d'être inconnue. L'émission Un jour dans l'histoire et l'émission Éclairage ont en effet reçu deux spécialistes du personnage. Françoise Mélogneau, auteure de l'incontournable Tocqueville et les Français, paru chez Aubier, et Agnès Antoine, que j'ai reçue à deux reprises à ce micro, et qui travailla sur les liens entre Tocqueville, la religion et la démocratie à travers un ouvrage, L'impensé de la démocratie, ouvrage primé en 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques. Le nom de Tocqueville est d'ailleurs associé à celui de l'Académie, puisqu'il y fut élu en 1838, il y a donc très exactement 170 ans. Je laisse d'ailleurs nos auditeurs se reporter au site de l'Académie des sciences morales et politiques afin d'y retrouver de multiples discours prononcés à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Tocqueville, donc en 2005. Nous pouvons trouver plusieurs raisons au succès de Tocqueville. Ainsi, dernièrement, au cours de son voyage aux États-Unis, par deux fois, le pape Benoît XVI a cité l'auteur de la démocratie en Amérique. Pour le professeur et ancien cardinal Ratzinger, revenir à Tocqueville pour décrire l'imprégnation religieuse de la société américaine fut une évidence. Derrière les mots du souverain pontife, Tocqueville devenait en quelque sorte notre contemporain. Benoît XVI, bien évidemment, est loin d'être le seul à évoquer de la sorte l'intellectuel français. Ainsi, pour d'autres, les écrits de Tocqueville, donc dans la première moitié du XIXe siècle, s'inscrivent également dans le XXe siècle et ont, à bien des égards, une valeur prophétique. Quoi qu'il en soit, Tocqueville est quasi systématiquement sorti de son siècle, de son époque et des courants de pensée qu'il a côtoyés. C'est cet aspect que je vous propose aujourd'hui de mettre de côté. Je souhaite en effet relire de la démocratie en Amérique, relire l'Ancien Régime et la Révolution, non pas avec notre regard, mais avec celui de l'historien qui se replace dans le contexte de l'époque, réaliser un nouveau portrait de cet intellectuel incontournable qui, au-delà de la démocratie, tenait à percer les enjeux de l'autorité politique. Tel est le but de cette émission avec Lucien Jaume. Lucien Jaume, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes philosophe, historien des idées politiques, directeur de recherche au CNRS. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je ne citerai simplement que celui paru en 1997 chez Fayard, L'individu effacé, un livre primé par le Conseil général de Basse-Normandie. Et vous venez de publier, toujours chez le même éditeur, donc chez Fayard, une biographie de Tocqueville. Mais une biographie, ce n'est pas le mot juste, on parlera plutôt d'une biographie politique.
Ou intellectuelle.
Ou intellectuelle.
C'est le portrait à la fois d'un esprit et d'une âme, et de ses tourments, et de sa fécondité. C'est quand même un portrait.
Alors, justement, vous parlez de tourments,
oui.
Vous parlez de fécondité. Dès les premières lignes, vous dites qu'il existe une énigme Tocqueville.
Oui.
Quelle est cette énigme Tocqueville ?
Alors, cette énigme Tocqueville, je l'ai rencontrée progressivement. Il est réputé, et à juste raison, pour avoir une prose très claire. Raymond Aron parlait de la prose claire et un peu triste de l'auteur de Démocratie en Amérique. La formule est restée célèbre. Je me suis aperçu progressivement, en lisant il y a plus de 20 ans, d'ailleurs sous la conduite de François Furet à l'époque, en lisant de la Démocratie en Amérique, je me suis aperçu que cette prose, en fait, recélait de multiples résonances, tout d'abord. Je me suis aperçu que Tocqueville dialoguait ou polémiquait sans le dire avec de très nombreux courants de son temps, mais aussi, ça c'est plus connu, s'appuyer sur les grands moralistes classiques, ça on le sait, restait encore peut-être à prouver et démontrer jusqu'à quel point et sur quel point. Et puis, je suis arrivé peu à peu à l'idée que cet homme s'était investi très personnellement dans l'écriture de son livre, à savoir que lui, jeune légitimiste, partant en Amérique en 1831, voyage 1831-1832, à 25 ans, partait dans une véritable crise intellectuelle et spirituelle. parce qu'il était en réalité en rupture avec son milieu, en rupture intérieure, pas extérieure, avec son milieu monarchiste, légitimiste, de piété envers la mémoire de Louis XVI, de fidélité à la mémoire de Malesherbes, celui qui avait défendu le roi devant le tribunal révolutionnaire. Une famille très frappée par la Révolution, puisque ses parents ont échappé à la guillotine grâce à la chute de Robespierre en Thermidor. Je me suis aperçu que, en réalité, dans cette écriture si claire, il se déguisait. Mais j'ajoute...
Il avance masqué.
Oui, mais j'ajoute, pour traiter lui-même, pour se mettre au clair lui-même sur ce qu'il faut penser de la société moderne, qu'il va appeler la démocratie, et sur ce qu'il faut faire pour l'améliorer. C'est-à-dire que le premier interlocuteur d'Alexis de Tocqueville, c'est Alexis de Tocqueville. Ce livre, « Démocratie en Amérique », est un livre d'automédication pour quelqu'un qui éprouve de très grandes incertitudes, politiques bien entendu, philosophiques et existentielles. C'est un livre d'automédication. Alors, par ailleurs, en commençant à développer cette hypothèse qu'il fallait aller chercher derrière le théoricien, qu'il fallait aller chercher et l'homme et l'expérience de cet homme, en avançant dans cette hypothèse, j'ai commencé à faire une autre hypothèse, c'est qu'il y avait plusieurs interlocuteurs du livre. Il y a sa famille, et nous savons, grâce à l'édition Nola Chevrin, nous savons que Tocqueville montre ses manuscrits, puis bon, j'en ai regardé quelques-uns, montre ses manuscrits de Démocratie en Amérique à toute sa famille. Et il reçoit les feuilles corrigées de la main paternelle ou de la main du frère Édouard, aussi probablement de l'ami Bouchité, là nous n'avons pas les traces, qui est un philosophe catholique qui a été très important, aussi de Jean-Jacques Ampère. Nous savons qu'il a de très longs échanges avec Kergorlé, avec Gustave de Beaumont, toujours sur ce manuscrit. Mmh. Et tout ce milieu est légitimiste, à part Bouchité, et à part Ampère. Bon, enfin, mais si nous parlons de Gustave de Beaumont, si nous parlons d'Édouard de Tocqueville, le frère, Hippolyte, l'autre frère, si nous parlons de Hervé, le père, etc., tout ce milieu est légitimiste, n'est-ce pas ? Bon. Et alors, donc, il reçoit les remarques, les critiques, voilà. Et donc, en fait, il expérimente déjà dans quelle mesure il peut entraîner la mouvance légitimiste raisonnable à passer à la démocratie, à cette société moderne qu'il n'aime pas, mais dont il se convainc et dont il veut convaincre son milieu, et donc plus largement il veut convaincre les Français, qu'il faut l'accepter en l'améliorant.
Il y a une capacité vraiment à sortir de son écriture et à s'observer finalement pour mieux avancer.
Je crois que il y a des aveux même. Il y a même la question du mariage, très grave pour lui. Il y a la question des épousailles en milieu aristocratique. On l'empêche une première fois d'épouser la jeune fille qu'il aime, qu'il va fréquenter de mémoire 5 ans à peu près. Et on a failli Kergorlé de nouveau à l'assaut. Le cousin et confident, n'est-ce pas, Louis de Kergorlé, tente de l'empêcher d'épouser Marie Motley, l'anglaise roturière. Là, il échoue, Tocqueville épouse. Seulement, la famille n'apprécie pas du tout cette roturière. Et au décès de Tocqueville, n'est-ce pas, le faire-part ne mentionnera pas l'épouse. Elle n'existe pas sur le faire-part de décès. C'est extraordinaire.
Alors, vous présentez...
Or, il parle du mariage aristocratique. Voilà. Oui. Il y a un chapitre très important. Il y a un chapitre sur la femme, sur la famille. Mais il y a un chapitre sur le mariage aristocratique et les barrières. Les barrières qu'on impose aux jeunes de ce milieu aristocratique. Il y a une souffrance derrière ce livre. Mais c'est admirable parce qu'il rationalise cette souffrance. Il la met à distance. Et il essaie de penser... contre lui-même, c'est-à-dire contre son éducation reçue.
Alors, il y a un autre point que vous présentez également dans votre introduction, c'est que, généralement, on a du mal à saisir Tocqueville. Alors, certes, issu du milieu légitimiste, on a largement insisté sur ce point, mais finalement, homme du milieu.
Bien sûr, homme de modération, oui. Son problème dans une France qui est fort peu modérée, puisque on est passé de la terreur à la dictature napoléonienne, c'est quand même une dictature. Puis ensuite, quand arrivent les Bourbons, il y a une terreur blanche qui s'installe dans le midi de la France. Les protestants sont lynchés. C'est un pays d'extrême. Louis XVIII essaie de calmer le jeu. Hein.
Oui.
Mais nous savons qu'il échoue, puisque Louis XVIII engendre Charles X, qui engendre la Révolution de 1830. Et en effet, Tocqueville, lui, est quelqu'un qui cherche à arrêter la Révolution, comme le grand thème du XIXe siècle, François Furet en a beaucoup parlé de cela, arrêter la Révolution. Et quand il voit 1848, il écrit « C'est la Révolution française qui recommande,
ouais,
qui
ouais,
recommence,
ouais,
à ne
ouais,
se termine pas. »
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et donc, il essaie d'être homme du milieu. Oui.
C'est-à-dire que la gauche et la droite trouvent chez Tocqueville son miel ?
Vous parlez à son époque ou aujourd'hui ?
à son époque.
Bon, alors à son époque, non, du tout. À son époque, du tout, parce que Tocqueville a là aussi un grand problème, qu'on peut très bien comprendre, mais en politique c'est mortel, il est inclassable. C'est-à-dire, en quelques mots, quand il est élu député pour la première fois, 1839, après deux échecs, il ne veut rejoindre ni la coterie d'Adolphe Thiers, ni les doctrinaires de Guizot, ni le parti social de Lamartine, justement des monarchistes légitimistes qui passent à la République progressivement, ni les républicains, qu'il considère en France comme beaucoup trop factieux, beaucoup trop ennemis des constitutions, bon, beaucoup trop portés au coup de force, ni les socialistes, bien entendu, puisqu'il est très antisocialiste, surtout pas les légitimistes. Alors, sa plus grande crainte, et là-dessus, il a pas mal de problèmes, c'est qu'on dise qu'il est resté un légitimiste, masqué. Il déteste ce... Et ça, du coup, détestant cette étiquette, ça le conduit à des stratégies assez compliquées. Il est politiquement inclassable. Quand vous êtes politiquement inclassable et que vous êtes au Parlement, vous êtes mort. Il n'a pas de parti. Alors, il va essayer de fonder la Jeune Gauche. Parce que, attention, de plus, il veut être à gauche. Et il demande d'être classé à gauche. On le met finalement au centre-gauche à sa première élection.
Oui.
Lui, il considère qu'il doit siéger à gauche, n'est-ce pas ? C'est la suprême ironie de tout cela. Et donc, finalement, étant inclassable, il essaye de fonder avec un groupe de gens qui sont assez bien, un peu moyens, comme Dufort, des gens comme ça. Il essaie de fonder un parti de la Jeune Gauche avec quelques réformes sociales à la clé. Très critique envers Juillet, très critique envers Guizot, très critique envers la corruption. Mais ça ne marche pas. Et puis nous sommes tard là, hein, nous sommes 1844, 40-48 hein, pour la Jeune Gauche. Donc pas de succès politique, politiquement il réussit mal. Naïvement il écrit « Démocratie en Amérique », s'en cache pas, pour faire carrière politique. C'était le temps, comme on disait dans une rencontre récente, comme disaient mes amis, c'était le temps où en France, quand on écrivait de beaux livres, on pouvait prétendre la carrière politique. Sans commentaire. Donc, il se présente aux élections avec son livre à la main. Il veut être celui qui a instruit les Français sur la jeune République américaine. Bon, ça ne marche pas du tout. Ça ne l'aide pas politiquement. Politiquement, si vous voulez, ce qu'il fait n'est pas très brillant, même s'il devient ministre finalement de Louis-Napoléon Bonaparte. Avec une grosse affaire avec Rome et le pape, quand même un échec assez... Carrière politique plutôt en dessous du personnage intellectuel.
Oui. Alors, j'en viens justement à ce qui sous-tend votre ouvrage. Il y a deux temps, si je puis dire. Un premier temps, c'est d'abord vous réunissez, alors qu'on a tendance à les séparer de la démocratie en Amérique, les deux tomes qui sont bien différents pour nos auditeurs, et l'Ancien Régime et la Révolution.
Effectivement, oui.
Et le deuxième temps, c'est que vous replacez Tocqueville en son époque, alors que, contrairement au mouvement à ce jour, qui généralement ne voit que le prophète de la politique, et qui, c'était votre question tout à l'heure, vu d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut le prendre à gauche, ou est-ce qu'on peut le prendre à droite, ou est-ce qu'on peut le prendre des deux côtés ? Donc, votre livre, c'est vraiment resituer Tocqueville en son époque.
Oui, parce que l'idée est la suivante, c'est en faisant l'effort de prendre le recul historique que nous saurons mieux qui nous sommes aujourd'hui. Partir de la sympathie, l'identification est agréable, mais à mon avis, occulte des aspects qu'on n'aperçoit pas et qu'on aperçoit mieux en prenant le recul historique. Et le recul historique, ensuite, nous permet de nous comparer. Je le constate quand je parle dans certaines conférences, des personnes qui ne connaissaient pas Tocqueville ou qui le connaissaient peu me disent « Mais vous venez de nous parler du 19e siècle ?» Mais je retrouve nombre de traits d'aujourd'hui. Alors je dis, monsieur ou madame, écoutez, là je suis content parce que du coup je gagne sur les deux tableaux alors. C'est pour ça que je me suis recommandé de Lucien Febvre dans l'introduction du livre. Lucien Febvre, à propos de son grand livre sur Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Lucien Febvre qui disait, gardons-nous d'appliquer nos catégories d'aujourd'hui sur Rabelais. Ne parlons pas en termes de croyants versus athées. Et Lucien Febvre, donc invité à redécouvrir ce tissu sémantique, historique, intellectuel sur lequel surfe, pour employer un terme anachronique, sur lequel surfe Rabelais. Eh bien, de même, dans Tocqueville, il y a des mots. Alors, vous avez vu, j'ai mis en avant certains termes comme le dépôt de l'autorité. C'est un véritable signal à l'époque. Dépôt, c'est un terme capital parce qu'il renvoie à l'Église catholique. J'ai souligné certains termes où en fait, il y a derrière Joseph de Maistre qui n'est pas cité, mais dont il reprend les termes très connus du lecteur, le principe générateur. Le principe générateur, c'est le livre très diffusé de Joseph de Metz, principe générateur des constitutions, ultra célèbre. Pour le lecteur de l'époque, principe générateur, et Tocqueville détruit la pensée de Mestre dans ses pages, etc. Donc, j'ai fait une indexation sémantique avec l'ordinateur, et j'ai calculé que, par exemple, le mot dépôt n'intervient que 4 fois, il n'utilise que 4 fois, et toujours dans un contexte religieux. Alors, il n'y a pas de hasard. Alors, quand il parle de l'opinion en démocratie et qu'il s'interroge sur le dépôt de l'autorité, et il dit le dépôt de l'autorité, c'est la majorité et c'est le public. La démocratie, c'est le culte quasi-religieux du public. S'il emploie le terme dépôt, il sait ce qu'il fait. De même, quand il emploie esprit de cité est un terme extrêmement connoté à droite aussi, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans le livre, ce qui me confirme dans ma sensibilité à ces mots, c'est que les 2 ou 3 meilleurs commentateurs et amis de Tocqueville de son temps ont repris esprit de cité, l'ont cité justement sur ces passages, et de même pour d'autres termes que j'avais épinglés, si j'ose dire, ils sont tout de suite repris par les commentateurs. Ça veut dire qu'un signal s'est allumé. Dans une lecture intelligente de l'époque, je ne dis pas aujourd'hui, aujourd'hui nous n'avons plus cette connaissance, mais dans une lecture avisée de l'époque, des contemporains, Tocqueville se sert de certains signaux qu'il nous faut repérer, à mon avis.
Alors justement, quel est le sens du mot démocratie chez Tocqueville et à l'époque? C'est ce que nous allons voir, Lucien Jaume, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Il a eu pour amis et modèles Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Lucien Jaume, philosophe, historien des idées politiques et auteur d'une biographie intellectuelle, d'une biographie politique consacrée à Tocqueville, parue chez Fayard. Alors, nous disions avant la pause que le sens des mots est très important. Et le sens des mots, à l'époque, ne recouvre pas forcément, pas systématiquement, la même réalité aujourd'hui. Oui. Et le premier mot de l'œuvre de Tocqueville, eh bien, c'est la question de la démocratie. Quel sens? Oui. Que faut-il entendre, d'ailleurs, c'est le titre d'une de vos parties, oui. Que faut-il entendre par démocratie chez Tocqueville?
Bon, alors là, effectivement, nous sommes devant un grand problème. James Schleifer dit qu'il y a 11 sens du terme chez Tocqueville, et donc c'est un vrai problème, dit-il. Bien.
Donc déjà chez Tocqueville, il y a 11 conceptions différentes.
Conception, non, je ne pense pas, mais il y a des glissements sémantiques. Alors, il faut commencer par dire que le terme est extrêmement banal à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Que le terme est dans la controverse politique, et qu'il est tiré déjà dans tous les sens. Mais quand même, en gros, qu'est-ce que veulent dire les orateurs qui, à la Chambre des députés ou à la Chambre des pairs, parlent de la démocratie, des flots de la démocratie? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, en gros, l'égalité devant la loi conquise par la Révolution française, plus de privilèges, bon, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, etc. Donc la grande notion d'égalité juridique, matérielle, c'est autre chose, mais juridique. Et d'autre part, ils veulent dire l'ascension de la classe moyenne ou des classes moyennes, la bourgeoisie qui, en effet, occupe les postes et qui, en vertu de la déclaration de 89, par la conception française du concours, de la concurrence, du mérite, des vertus et des talents, comme dit la déclaration de 89, la carrière ouverte aux talents, ce qui est la conception bourgeoise, on dit aujourd'hui républicaine, mais ce qui est la conception de la révolution de 89. Donc, en gros, c'est quand même sa démocratie. Oui, mais Tocqueville va faire un choix. Il va le faire assez tard, d'ailleurs. Il ne le fait que vraiment au moment où il écrit dans les derniers mois, 35, hein, 34-35. En 33, ce n'est pas encore clair. Je rappelle, le premier volume Démocratie numérique, 1835, le deuxième volume, 1840. Il fait un choix. Il va appeler démocratie deux ordres de choses différentes et séparables. Il y a le régime politique, bien entendu, avec la loi des majorités et le vote, donc la démocratie comme gouvernement fondé sur la souveraineté du peuple du point de vue politique et l'élection, bien. Et puis, il y a une forme de société, ce qu'il appelle, lui, l'État social. Notion qu'il n'invente absolument pas, elle est chez Guizot, elle est chez Bonald dès 1802, elle traîne partout. Certains ont cru que c'était un concept forgé par Tocqueville. Non, mais le contenu tocquevillien, alors, est quand même un peu original. Démocratie comme État social, cela veut dire des usages, des mœurs, des croyances, des relations entre individus, une certaine façon de se rapporter aux autres. Bref, à peu près quand même ce qu'on appelle depuis Hegel et depuis John Locke aussi, société civile. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la démocratie état social sans la démocratie régime politique. C'est-à-dire qu'il montre que la démocratie état social, comme forme de société, s'accommode du despotisme, s'accommode de la perte des libertés publiques, civiles et politiques. Et pour lui, l'illustration tragique à ses yeux, 20 ans après, c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le coup d'État de 1851. Il regarde avec horreur ce Second Empire qui s'installe. Il réédite dans l'Ancien Régime et la Révolution avant-propos, il réédite 3 pages de l'introduction de démocratie en Amérique, se créditant d'avoir en somme prévu l'arrivée du despote. Voilà un régime qui tient les Français dans le despotisme, pas de liberté de presse, liberté électorale qui est une plaisanterie puisqu'elle est extrêmement contrôlée par le préfet et par le candidat officiel du régime. Passons, hein, donc toutes les libertés sont atteintes. Oui, dit Tocqueville, mais ce genre de régime se nourrit des vices que l'État social contient en lui. Quel est le vice essentiel de la démocratie État social, qui par ailleurs a des vertus, hein? Quel est le vice essentiel? C'est l'individualisme comme forme d'égoïsme, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui la dépolitisation. Se vouer à ce que Tocqueville appelle les jouissances matérielles, ce que nous appelons aujourd'hui la consommation. L'individu citoyen dépolitisé qui recherche le confort et le profit personnel et se désintéresse des libertés publiques et finalement se désintéresse de la vie politique.
Alors justement, ce qu'il voit en Amérique, c'est l'importance de toutes ces institutions intermédiaires, en quelque sorte, ces contre-pouvoirs qui empêchent cette dérive despotique. J'écrivais dans mes notes, au fond, Tocqueville n'est pas du tout l'ami des préfets, et il est pour le rôle politique de la commune. La démocratie de proximité, Ségolène Royal parlerait de démocratie participative.
Alors là, vous allez très vite. Alors d'abord, le préfet, oui, mais son père a été préfet. Son père a été préfet parce que ses légitimistes veulent servir la nation. Préfet sous la Restauration. Quand l'usurpateur Louis-Philippe fait la Révolution de 1830, le comte Hervé de Tocqueville refuse de prêter le serment, alors qu'Alexis le prête. Hein. Enfin, bon, il a eu un père préfet. Mais vous avez raison, il est contre le système napoléonien, la centralisation administrative. Surtout aux États-Unis, plus que les freins et contrepoids, qui sont là dans le système président, congrès, système de freins et contrepoids entre les deux chambres et par rapport à l'exécutif. Surtout, ce que j'étudie dans le livre, parce que c'est quand même la première admiration de Tocqueville, c'est la commune américaine, qui en fait équivaut à notre canton parce qu'elle est beaucoup plus vaste, c'est le township de Nouvelle-Angleterre. Alors américain, où ? Pas partout, en Nouvelle-Angleterre. Il admire une commune qui s'est organisée là, dit-il, dès le XVIIe siècle. Il dit dès 1650. J'ai là une citation où il dit dès 1650, la commune américaine, donc dès le XVIIe siècle, en Nouvelle-Angleterre, est là présente. Et ce qu'il admire, c'est que souvent dans ce township, c'est la démocratie directe. Il n'y a même pas un corps municipal élu. Les citoyens font directement leurs affaires et nomment et révoquent alors tout un ensemble de fonctionnaires de la commune. Voilà ce qu'il admire surtout aux États-Unis, c'est-à-dire que la vie politique est d'abord à la base. Alors, je me suis amusé en effet à rapprocher de la loi de Lionel Jospin, la loi démocratie de proximité, tout en montrant que, en même temps, déjà Tocqueville pensait, ça reste quand même largement vrai, qu'il y a un abîme entre la conception française de la souveraineté du peuple et la conception américaine de la souveraineté du peuple. Grossièrement parlant, quel est cet abîme? C'est qu'en France, depuis que nous parlons de la souveraineté du peuple depuis la Révolution française, en réalité, c'est l'État et c'est le président de la République et c'est les chambres et c'est l'empereur et c'est le roi. Enfin, il y a une incarnation de la souveraineté du peuple qui fait qu'à la base, la démocratie n'est pas très vivante. C'est pourquoi nous n'avons jamais fait la décentralisation, alors que nous en avons parlé pendant tout le 19e siècle, par exemple. Nous l'avons faite en 1982. Jusqu'à 1982, nous n'avons pas avancé dans la décentralisation. Or, aux États-Unis, Tocqueville montre bien que tout part du bas. Tout part du bas, c'est-à-dire que ce qui compte, ce sont les citoyens à la base, dans leur réunion communale, et par rapport à l'État, et par rapport à l'État fédéral. Là-dessus, il est très très clair, parce qu'il y a des pages extraordinaires où il insiste sur le fait que, autant pour nous, la vie politique vient du haut, vers le bas, et c'est pourquoi nous sommes toujours réticents vis-à-vis de la décentralisation. C'est pourquoi nous avons le culte de l'État, et nous avons des raisons d'avoir le culte de l'État. C'est la monarchie luttant contre les féodaux, c'est la monarchie luttant contre les privilèges qui nous a donné ce culte de l'État. Autant nous avons le culte de l'État, autant aux États-Unis, on a le culte de la community. La community, qui est un terme encore très vivant présentement, même dans la conversation ordinaire. Qu'est-ce que vous faites pour la community ? Et pourtant, c'est un pays individualiste. Et ce que Tocqueville admire, c'est justement ce rapport entre l'individualisme utilitariste, on se rend des services réciproques et on se rend utile à la community, et par ailleurs, le sentiment de la community, qui, justement, ne se réfère pas immédiatement à l'administration ou à l'État. Alors, vous évoquez Ségolène Royal. La question de la démocratie participative, si vous voulez, nous la découvrons avec des yeux un peu frais, parfois un peu naïfs, parce que, justement, nous avons toute cette histoire de culte de l'État administratif, de l'État centralisateur. Toute l'histoire du Conseil d'État, on pourrait en parler, Tocqueville est très critique.
On va quitter Ségolène Royal, parce que...
Oui, d'accord.
Et je voudrais me resituer dans l'époque, et toujours aux États-Unis, après la question communale, il y a la question importante de l'opinion publique. Quel rôle joue l'opinion publique? Parce que sur la transposition, non pas du modèle américain, mais sur la question française, où vous expliquez très bien que le fractionnement de l'autorité politique ne correspond pas à la culture française, puisqu'on a un État centralisé. Est-ce que l'on peut dire la même chose de l'opinion publique ? L'opinion publique est très importante aux États-Unis. Est-ce qu'elle est aussi importante ? Est-ce qu'elle est transposable à la France ?
Alors d'abord,
qu'il
soit bien clair que Tocqueville ne voulait pas transposer. « Démocratie en Amérique » est un livre sur la France, dirais-je un peu de façon provocatrice. Comme il l'a écrit lui-même à Louis de Kergorlé, il n'est pas une seule page où je n'ai pensé à la France. Bon, heureusement qu'il a fait cet aveu, ça m'aide. Mais transposer, non, comparer. C'est-à-dire, comme disait Montesquieu, il ne s'agit pas de faire lire, il s'agit de faire penser. Donc il suppose un lecteur qui de lui-même fera la comparaison avec un lecteur français qui fera la comparaison avec son pays. Donc transposer, non, comparer. Alors, il y a deux questions, je crois, en même temps. Il y a la question de qu'est-ce que l'autorité selon Tocqueville, et il y a la question qu'est-ce que l'opinion publique. Alors, qu'est-ce que l'autorité selon Tocqueville? Je trouve que l'une des choses les plus fortes et les plus intéressantes pour aujourd'hui, dans Démocratie en Amérique, c'est qu'en dehors de l'autorité politique, proprement dite, et alors, donc celle du président et celle du Congrès, si vous voulez, de l'État fédéral ou des États américains, en dessous de l'État fédéral. Ce qui est très intéressant, c'est que pour lui, la question de l'autorité est dans l'État social, dans la société civile. C'est-à-dire qu'il y a des générations spontanées de formes d'autorité au sein de la société civile. Pourquoi ? Parce qu'il y a les associations, parce qu'il y a les formes de religion qui sont importantes aux États-Unis et qui sont un lieu de sociabilité, parce qu'il y a tous ces moyens par lesquels le citoyen américain cherche à obtenir la reconnaissance de la collectivité. Et donc, il n'y a pas une autorité qui serait l'État et puis des citoyens. Il y a des formes d'autorité sociale. Et même, j'ai essayé de montrer que Tocqueville s'inspirait de Lamennais. Et dans la correspondance encore inédite, il y a deux lettres à Lamennais qui, quand même, renforcent mon hypothèse. Elles vont être publiées par Françoise Méloniaux. La deuxième est d'attestation contestée, d'ailleurs. Bon, passons. Tocqueville s'inspire de Lamennais en ce que Tocqueville reprend l'idée de l'autorité du social. Alors, l'autorité du social. Lamennais dit exactement la voie sociale de l'autorité. Voilà, si je le cite. C'est un peu mystérieux pour nous et en même temps, c'est quand même très clair. Qu'est-ce que c'est l'autorité du social ? C'est tel leader religieux qui peut, aujourd'hui, nous le voyons, mobiliser une communauté même restreinte. L'autorité du social, c'est éventuellement tel écrivain qui peut créer un phénomène d'engouement. On fait la queue, n'est-ce pas, pour signer les romans de Madame G. L'autorité du social, ça peut être aussi bien dans un quartier, une association qui réussit tellement à intéresser ses membres que finalement elle exerce une véritable discipline à la longue et on se demande si on n'est pas en train de passer à la secte, etc. etc. La société civile n'arrête pas d'engendrer des reconnaissances et des révérences envers soit une espèce d'institution en train de germer, ça arrive, des groupes identitaires, un groupe de musique. identitaires, des revendications. Les faucheurs d'OGM sont aussi une autorité par rapport à ceux qui les rejoignent. José Bové est une autorité par rapport à ceux qui les rejoignent. Les homosexuels, on a bien vu que le mouvement homosexuel crée aussi une forme d'autorité dans la société civile avant de se faire reconnaître dans l'État. La librairie des femmes, les rencontres qui ont lieu, d'ailleurs très intéressantes, etc. Tout ça c'est pour décrire, je ne juge rien, sont aussi une forme d'autorité dans la société civile. Il faut prendre l'autorité au sens où le prend Tocqueville, c'est-à-dire vous reconnaissez, par vous-même et par votre liberté, vous reconnaissez une forme d'adhésion que vous donnez et que vous pouvez retirer si vous êtes déçu ensuite. Alors l'opinion, du coup.
Parce que oui, là, alors, nous frisons la frontière avec l'opinion.
Alors nous sommes à la frontière avec l'opinion, nous y sommes déjà presque dedans. Il y a toute une théorie sociologique chez Tocqueville de ce qu'il appelle l'opinion publique qui, d'après lui, est le nouveau dieu de la démocratie. Alors, il donne une sorte d'idéal type qui est toute la contradiction de l'homme démocratique, de l'individu démocratique. Quelle est la contradiction ? D'une part, d'autre part. D'une part, nous sommes tous libres et égaux, c'est-à-dire que votre opinion personnelle à vous, monsieur, n'est pas supérieure à la mienne et mon opinion personnelle à moi n'est pas supérieure à la vôtre. Et nous sommes fiers, à juste titre d'ailleurs, j'ajouterai, nous sommes fiers de notre indépendance de pensée et de l'égalité entre les opinions. Mais, du coup, supposons qu'on vous dise, que la majorité des Français, supposons qu'on vous dise que 40 millions de Français pensent ceci, et que vous, vous soyez d'un avis absolument opposé. Tocqueville écrit « L'individu, face à ce qui lui semble être l'opinion de la majorité, est tenté de penser, mais alors, ils ont forcément raison, puisque nous sommes tous égaux, en valeur de jugement. Comment pourrais-je, moi tout seul, avoir raison contre 40 millions d'égaux ?» Tel est le grand problème.
C'est là où on aliène sa liberté ?
Alors, Tocqueville pense que le citoyen de la démocratie aura tendance à aliéner sa liberté. Et il écrit cette phrase terrible : « Je ne connais pas de pays où il règne moins de liberté de pensée qu'en Amérique. » Quel paradoxe ! Parce qu'après tout le tableau quand même de la liberté américaine, des avantages de la société américaine, il nous écrit que c'est le pays le moins libre qu'il connaisse en matière d'opinion.
Il existe donc une contrainte du social, une tyrannie de la majorité.
Sur elle-même et sur chaque individu.
Justement, c'est là où votre ouvrage, j'allais dire, resplendit, si vous me permettez, Monsieur Jaume, c'est que vous décryptez un peu ce personnage et un des aspects de ce personnage, et que vraiment on découvre ici, c'est son jansénisme. Alors, quel est le lien du jansénisme avec Tocqueville ? C'est ce que je vous propose de voir, Lucien Jaume, après cette deuxième pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Academy vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Academy.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Lucien Jaume, auteur d'une biographie intellectuelle consacrée à Tocqueville, parue donc dans la grande collection des biographies de chez Fayard. Nous avons laissé nos auditeurs sur l'idée qu'il y a une tyrannie de la majorité et que Tocqueville dit qu'au fond la liberté de penser existe très peu aux États-Unis. Est-ce qu'il en tire une amertume ? Est-ce qu'il tire une amertume non seulement de ses conclusions, mais aussi de, finalement, cette impossibilité, vous disiez tout à l'heure qu'il ne peut pas y avoir de transposition entre les États-Unis et la France, mais de cette difficulté française à ne pas trouver son régime. Vous le citiez tout à l'heure, la nouvelle révolution, c'est toujours la même, celle de 48.
Celle de 89.
Voilà, c'est le retour de la révolution de 89, car c'est toujours la même.
C'est toujours la même. Oui, alors amertume, non, mais il y a quand même chez Tocqueville à la fois une espérance et un scepticisme. L'espérance, ce serait que peut-être on arrivera à spiritualiser la démocratie. Alors ça, c'est son expression, et Agnès Antoine en a parlé aussi, n'est-ce pas ? Spiritualiser la démocratie, c'est l'expression qu'il emploie maintes fois. Mais il faut en venir, si vous voulez, à ce qui motive ce jugement à la fois d'espérance et de scepticisme, c'est la question du jansénisme et c'est la question du moraliste. Tocqueville est quelqu'un qui se nourrit des moralistes, notamment du XVIIe siècle, mais il aime beaucoup aussi Voltaire pour un certain tour d'esprit et pour l'écriture. Il dit que c'est le premier écrivain. Le premier écrivain est Voltaire, le deuxième est Buffon. Et Pascal, bon, est probablement le troisième, ou à égalité avec Voltaire, ça, c'est pas très clair. Bon. Le jansénisme de Tocqueville, c'est l'idée de vérité voilée. De même que le Dieu est un Dieu caché, Deus absconditus, pour Tocqueville, la vérité est voilée pour l'homme. D'abord, l'homme est voilé à lui-même. L'homme ne peut pas se connaître lui-même, il le dit en toutes lettres. Et il a une fois écrit à son ami Bouchité combien il admirait de pouvoir se connaître, car à son avis, c'était impossible. La vérité voilée fait qu'il n'y a pas de science politique absolument sûre, il n'y a pas de science de la société absolument sûre. Tout est probabilité. Il y a un très beau texte à propos de la poésie où il explique qu'il y a un voile qui, comme à l'opéra, nous cache le jeu des machines et le jeu derrière les tableaux que nous voyons se succéder sur la scène. La fréquentation par Tocqueville des moralistes, du jansénisme et plus spécialement de Blaise Pascal est un célèbre thème, à mon avis, trop peu éclairci. J'avoue que j'ai consacré je peux dire presque 2 ans, uniquement à cette question du rapport au jansénisme. Alors, peu importe les indices, les preuves que je peux apporter, les éléments de conviction éventuels, parce que tout ça, c'est de l'interprétation. Là aussi, il n'y a rien d'absolument irréfutable, tout est discutable. Mais en tout cas, on peut montrer que quand Tocqueville parle de l'un des traits constitutifs de la démocratie, l'espérance des jouissances matérielles. C'est l'un des traits de la démocratie moderne. Bien sûr, nous ne parlons pas de l'Antiquité. L'un des traits constitutifs de la démocratie moderne, c'est que les individus y vivent dans l'espérance des jouissances matérielles. Ce mot espérance, il faut le regarder de très près. Il faut voir ce qu'il évoque chez Tocqueville. Et je pense, j'ai essayé de montrer en mettant les textes en parallèle, qu'il évoque le divertissement chez Pascal. C'est-à-dire que l'espérance des jouissances matérielles est vraiment une espérance et pas simplement un besoin ou un désir. Elle ne peut pas être comblée. Plus les individus poursuivent la recherche des jouissances matérielles, plus ils seront insatisfaits. Plus les individus cherchent à être égaux, alors là, il y a une grande leçon pour nos politiques, à chaque satisfaction qui est donnée à la revendication d'égalité, la revendication s'accroît. Et ce sont les gens les plus proches les uns des autres qui sont les plus insatisfaits. Tocqueville dit que ce n'est pas les grandes inégalités qui aggravent l'amertume dans la demande d'égalité, ce sont les situations assez proches qui créent le plus d'insatisfaction quant à l'égalité obtenue. Et finalement, l'espérance des jouissances matérielles, c'est le divertissement pascalien. On peut montrer, en comparant les textes, que quand Pascal parle de ce chasseur qui court après un lièvre et qui ne voudrait surtout pas qu'on lui donne ce lièvre, parce que ce n'est pas la prise en fait qu'il cherche, mais c'est le désir de désirer la prise, c'est la chasse qu'il cherche, eh bien, Tocqueville prétend, alors là, on peut discuter, mais il prétend que si nous avons une telle passion des jouissances matérielles dans le monde moderne, c'est parce que nous ne pourrons jamais nous satisfaire. Et c'est la chasse qui nous intéresse.
Il y a quand même un concept qu'il essaie de trouver pour pallier cette incurie, c'est cette notion d'honnêteté est un frein à la dérive des démocraties. Mais est-ce que cette notion d'honnêteté, au fond, n'est pas utopique ?
Pas tout à fait, parce que l'honnête tel qu'il l'entend est aussi l'honnête dont parlait le janséniste Pierre Nicole, dont parlait parfois Montaigne, dont a parlé Cicéron, l'honestum. C'est un honnête en partie hypocrite. Ce n'est pas utopique en ce sens que l'honnête est, si vous voulez, une morale qui est à hauteur d'homme. Elle n'est pas du tout une morale kantienne et elle n'est pas du tout une morale de sainteté. C'est une morale de l'utilité sociale reconnue. L'honnête, selon Tocqueville, en démocratie, c'est de rendre service à la collectivité et d'en tirer des profits personnels, honorables. Être bien payé, être admiré, être encouragé, être élu, être vanté, avoir de la popularité, eh bien voilà, si vous voulez, le paiement de l'honnête. Mais il y a une part d'hypocrisie quand même. Ils considèrent que les Américains sont très hypocrites. Quand ils voient le dimanche les routes qui sont barrées, les bars que l'on ferme, la religion qui s'impose de façon écrasante à Boston ou dans des villes comme ça, il écrit aussitôt à sa famille, il doit régner ici une très forte hypocrisie. Parce que l'honnête est une comédie sociale. Mais c'est ce que dit Pierre Nicole. Il faut lire et relire cet admirable janséniste. C'est disponible aux presses universitaires de France, les essais de morale de Nicole. Il faut relire cet extraordinaire moraliste janséniste, Pierre Nicole, qui explique que l'honnête ne donnera pas le salut chrétien. C'est un égoïsme raffiné. Mais, dit Pierre Nicole, c'est ce qui fait vivre la société. Et Tocqueville, cette école, c'est-à-dire qu'à la fois, son cœur, si vous voulez, parlerait pour une morale du désintéressement et de l'austérité, quoiqu'il ait perdu la foi, mais sa raison parle pour une morale à hauteur de la démocratie qui est précisément ce fameux honnête, qui n'est pas utopique du coup. L'honnête, ça marche aux États-Unis, c'est pas utopique, ça marche. Alors en France, c'est une autre affaire, hein, de son point de vue, je veux dire, hein, ça, c'est une autre affaire.
Justement, revenons à la France et à cette question janséniste. Ce qui est étonnant, c'est que dans son livre « L'Ancien Régime et la Révolution française », il n'y a pas de lien entre le jansénisme et la Révolution. Pourtant, ce lien est majeur.
Ah oui, oui. Là, vous avez affaire de nouveau à un silence énorme. Un silence énorme dans le livre. Alors, il est d'autant plus énorme que son papa, le comte Hervé, a écrit deux livres d'histoire qui ne sont pas si mauvais qu'on le dit souvent. Et notamment, il a écrit un livre, n'est-ce pas, sur le passage à la Révolution française. Enfin, il a écrit un livre sur Louis XV, un livre sur Louis XVI. Et son père, Hervé de Tocqueville, met en cause le jansénisme, je dois dire, dans les termes de Joseph de Maistre, qui a beaucoup écrit là-dessus, hein, comme le jansénisme du XVIIIe siècle, celui des parlementaires, celui dont parle Catherine Maire, la très bonne historienne du jansénisme. Bon. Son père met en cause le jansénisme. Alexis de Tocqueville, dans le passage, enfin dans le climat pré-révolutionnaire, dans ses manuscrits même, ne souffle pas un mot. Ça, c'est un silence époustouflant. Alors que dans sa correspondance, par exemple, avec Corcelle, il parle des jansénistes d'Ancien Régime. Alors là, problème, est-ce que c'est un inspecteur de police, un psychanalyste, un historien des idées qui doit répondre devant cette énigme, cette seconde énigme Tocqueville ? Moi, je crois quand même que c'est trop difficile pour lui, en tant qu'auteur. Je crois que c'est trop difficile pour lui. Il ne veut pas parler du jansénisme. Il ne veut pas en parler parce qu'il y a trop d'attachement. C'est quand on...
Boileau disait rarement un esprit ose être ce qu'il est. Tocqueville est janséniste et il ne veut pas se l'avouer.
En tout cas, il ne veut pas l'écrire. Il ne veut pas se livrer au public. Ouais. C'est un homme qui constamment se demande qu'est-ce que je vais livrer au public. Il se déguise autant que Paul Valéry, si j'avais une comparaison à faire. Vous savez, Valéry sort d'une conférence et il dit à Gide, qu'est-ce que je les ai eus ? Parce qu'il s'était trompé dans une citation de vers de Victor Hugo. Et puis, comme il est poète, il avait rétabli... et il sort de là en riant, en disant André Gide. C'était, je crois, ici qu'est Conti, d'ailleurs. Il dit à André Gide, qu'est-ce que je les ai eus ? Et Gide le rapporte dans son journal. Fureur de Valéry, qui lui dit, dans une lettre que nous avons, « Mais enfin, je t'ai déjà maintes fois expliqué qu'il y a nous et il y a le public. Tu n'as pas le droit de rapporter au public ce que je te dis en tant qu'ami, mais aussi ce que je fais dans mes cahiers. » Vous savez, Valéry écrit pour soi dans les 29 volumes de l'édition du CNRS des cahiers que je possède, parce que c'est aussi l'une de mes passions, Valéry. Bien. Il y a l'homme caché et il y a l'écrivain. Tocqueville n'arrête pas, dans sa correspondance avec sa famille et ses amis, de se demander « Est-ce que je peux dire cela ?» Et on voit dans les manuscrits parfois « Protestantisme ». Il écrit « Ah non, là je ne peux pas aller à dire tout ce que je pense du protestantisme comme favorable à la liberté. »
Il y a une véritable politique de la langue tocquevillienne.
Oui, aussi. Oui. C'est aussi l'un des aspects qui m'ont passionné. Je me suis aperçu que je devais étudier l'écrivain. L'écrivain qui aurait bien envie d'ailleurs d'écrire des romans et des histoires de fiction et qui n'ose pas. L'écrivain qui admire le grand-oncle par alliance Chateaubriand et qui en même temps n'ose pas lui aussi se lancer en littérature. Du coup, nous avons une écriture merveilleuse, très calculée, très travaillée dans « Démocratie en Amérique » et dans « L'Ancien Régime et la Révolution » et dans « Les souvenirs ». Souvenez-vous, voyez les portraits qu'il peut donner dans les souvenirs, qui sont vraiment des portraits d'écrivains. Est-ce que je peux vous lire le portrait de Blanqui dans les souvenirs ? C'est alors que je vis paraître à son tour à la tribune un homme que je n'ai vu que ce jour-là, mais dont le souvenir m'a toujours rempli de dégoût et d'horreur. Il avait des joues hâves et flétries, des lèvres blanches, l'air malade, méchant et immonde, une pâleur sale, l'aspect d'un corps moisi, point de linge visible, une vieille redingote noire collée sur des membres grêles et décharnés. Il semblait avoir vécu dans un égout et en sortir. On me dit que c'était Blanqui. Vous voyez, ce genre de portrait assassin. De même pour Caussidière, je vis un corps très grand et très gros sur lequel était posée une tête triangulaire, forte expressive, enfoncée profondément entre les deux épaules. C'est Daumier. C'est un écrivain qui adore l'écriture, qui considère que écrire est une activité importante et grave, très sérieuse, et qui, du coup, à mon avis, appelle appelle, même pour la philosophie politique, même pour la pensée politique, appelle forcément une stylistique et même, je dirais, une herméneutique. Comment lire Tocqueville ? Il est possible que, après, je m'exprime là-dessus dans un petit ouvrage sur méthode d'interprétation de Tocqueville.
Alors, Lucien Jaume, encore quelques questions. Nous arrivons au terme de cette émission. Dans votre conclusion, vous parlez d'angoisse personnelle, de prophétisme pessimiste, de fatalisme même. Il y a donc ces deux démocraties hein, dans la pensée de Tocqueville, deux despoties, celui de la monarchie absolue.
Deux despotismes, plutôt que deux démocraties.
Et celui de la démocratie absolue. Tocqueville était dans cette impasse et il n'arrivait pas à en sortir, d'où son fatalisme ?
Non. Alors d'abord, je ne parlerai pas d'impasse, je parlerai d'inquiétude. Mais pas du tout d'impasse, parce qu'encore une fois, il a une espérance. Et par ailleurs, on ne l'a pas eu l'occasion de le dire dans l'entretien, mais il parle des merveilles de la démocratie. La démocratie permet la dignité humaine, l'égalité chrétienne. C'est quand même extraordinaire. L'égalité chrétienne arrive avec la démocratie des temps modernes. La démocratie permet des réalisations qui sont admirables. Évidemment, elle ne permet pas la grandeur. Et lui, il est attaché à la grandeur. Elle ne permet pas l'indépendance aristocratique. Il est attaché à l'indépendance. Elle ne permet pas les arts spirituels que lui admire. Elle préfère des arts beaucoup plus matériels, etc. Bon, mais je veux quand même souligner que il a une espérance pour la démocratie et ce n'est pas du tout une impasse. En revanche, ce que j'essaie de montrer et que je considère quasiment comme un mythe personnel au sens de Charles Moron, jadis la psychocritique, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il a un mythe personnel ou, si vous voulez, une idéologie. Il a un thème obsessionnel qui est que le despotisme, c'était Louis XIV, car cet enfant du légitimisme est pour la liberté aristocratique mais contre la monarchie absolue. Pour lui, la liberté, c'était l'époque féodale. Attention, la féodalité, en même temps, c'était l'époque des grands crimes et des vertus sublimes, écrit-il à sa femme. Donc, il y a des grands crimes, hein, tout de même, dans la féodalité. Mais la liberté, elle est là. Le sous-titre de mon livre, c'est « Les sources aristocratiques de la liberté ». Et là, aristocratique veut dire d'origine féodale. Il est contre Louis XIV. Il rejette la monarchie de Louis XIV. Pour lui, c'est le despotisme. Et comme Chateaubriand, ils ont ce point en commun. Il considère que le risque de la démocratie moderne, c'est le retour de Louis XIV. C'est-à-dire, entendons-nous, c'est-à-dire le retour d'un État administratif, rigoureux et paternel en même temps, auquel le citoyen s'abandonnerait. Ce n'est pas fatal, cela. Cela n'est pas fatal. Cela peut arriver. Alors, par contre, le fatalisme, alors j'ai été très surpris parce que François Furet m'avait éduqué intellectuellement dans l'idée qu'il n'y a aucun déterminisme historique chez Tocqueville. Que vraiment, il est l'ennemi de l'école fataliste de Thiers, cette époque-là, n'est-ce pas ? Oui, mais, j'ai trouvé beaucoup d'objections à cela, et notamment, il y a cette page de l'Ancien Régime et la Révolution, qui est visiblement démarquée de la dernière page de Bossuet, l'Histoire universelle. J'ai mis pour le lecteur en face à face les deux pages, le lecteur jugera. C'est vraiment la Providence qui mène les hommes indépendamment de leur dessein et qui sait où elle veut aller. Alors, dans le cas de Bossuet, Alexandre ne savait pas qu'en menant ses conquêtes, les soldats ne savaient pas qu'il préparait ceci et cela dans la suite. Donc, il faut regarder la page de Bossuet, je ne vais pas la lire ici. Dans le cas de Tocqueville, la Providence sait où elle mène les hommes, et bien elle les mène vers la société d'égalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Tocqueville considère qu'aucun roi en France n'a été bon pour le peuple. Il l'a dit et redit. Et il le dit encore dans l'Ancien Régime et la Révolution. Mais alors, dans certains textes, je crois que c'est dans l'Ancien Régime, là je suis un peu moins sûr, il dit qu'il n'y a eu qu'un roi, c'était Louis XVI. Mais il a très mal fini. Le seul roi qui a été bon pour le peuple a très mal fini. Et là, il s'interroge sur le mystère du martyr. Eh bien, cette page sur le mystère du martyr a son équivalent chez Chateaubriand. Là aussi, j'ai donné les deux passages. Et qu'est-ce que disent les deux auteurs, Chateaubriand et Tocqueville ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que le meurtre, parce que c'est quand même ça, bon, enfin, le régicide, la condamnation du roi, eh bien, ne peut se comprendre que dans les desseins de Dieu, que la clé est dans les desseins de Dieu. Ce mystère du seul roi qui a été bon pour le peuple et qui a été immolé ne peut pas se comprendre à l'échelle humaine. Et je ne crois pas que ce soit une figure de style chez Tocqueville. Donc nous répétons tous, depuis maintenant quelques années, que Tocqueville est l'ennemi du déterminisme historique. Là aussi, je dirais, plus complexe.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Lucien Jaume. Je rappelle à nos auditeurs les références de votre ouvrage. Donc, Tocqueville, il s'agit d'une biographie intellectuelle, Les sources aristocratiques de la liberté, tel est son sous-titre, un ouvrage paru chez Fayard. Merci beaucoup, restez à l'écoute de Canal Academy et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.